André Dumbuy, Maille au Cassin Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Les états généraux des concertations nationales ont débuté jeudi dernier à Kinshasa, mais une partie de l'opposition congolaise boycotte cette rencontre politique et la société civile en province orientale ainsi que la coalition nationale de la Cour pénale internationale dénoncent notamment certaines irrégularités. Comment commentez-vous cette actualité? Composez les 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiokapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Piro et Lameji et à Guimanzangou qui réalisent cette émission et Jir Lungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Gaka. Bienvenue à tous.
Le 21 septembre, donnons une chance à la paix. Ce jour-là, au Congo comme ailleurs, les Nations Unies appellent tous les combattants à déposer les armes et à briser le cycle de la violence. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, apprenons aux enfants le respect des autres et la tolérance. Éduquer les enfants, c'est œuvrer pour la paix et former les citoyens du monde. Le 21 septembre, engageons-nous ensemble pour la paix.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Merci à vous tous qui avez déposé vos commentaires sur notre page Facebook. Ben Alec Lukusa, vous avez écrit « Ces concertations sont en train de perdre sa nature nationale. C'est un piège. La majorité doit s'arrêter un peu et faire des concessions justes, raisonnables. Et l'opposition et la société civile doivent mettre un peu d'eau dans leur liqueur et rejoindre les autres. » Chekabore Mumbere à Goma dit « Mon cher journaliste, la RDC a besoin actuellement d'un leadership compétent. Étant et soucié de son peuple, que ces gens ne nous distraient pas avec ces concertations, car le pays vient de traverser plusieurs échanges et engagements, voire des accords par-ci par-là, qui ne donnent rien de fruits permettant d'aller de l'avant. Dido Bolekela dit, c'est simple, qu'on propose à l'opposition des postes importants dans les différentes commissions, ils vont tous revenir, juste des échappatoires. La classe politique congolaise, c'est l'argent, la trahison, les postes, bref, les combines. Badin Chako Tongomo de Bokungu dit, l'opposition doit rejoindre les concertations nationales, sinon elle va tirer les conséquences. Ils connaissent ce qui est arrivé en 2011 quand ils sont allés aux élections en ordre dispersé. Pascal Mufungizi, on est mal parti pour les concertations nationales, là où les deux poids lourds de l'opposition ne sont pas et pas de médiation internationale, rien ne va avancer. Elles ne sont pas pour moi nationales, c'est plutôt le temps pour la majorité présidentielle de se réunir et évaluer les partages du gâteau. Fabien Chiza à Kinshasa dit que l'opposition arrête ses zizanies, il faut qu'elle participe pour aider les autres à découvrir leurs erreurs et rectifier les tirs. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons dans ce studio Dominique Vert, qui est analyste politique belge, qui est avec nous. Dominique, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, on est presque à 10 jours après le lancement des travaux des concertations nationales. Peut-on oser faire une petite évaluation à mi-parcours? Où en est-on?
Écoutez, ce serait un peu ambitieux de pouvoir faire une évaluation à ce stade-ci. D'abord, je voudrais rappeler à vos auditeurs que moi, je n'ai pas évidemment l'ambition de vouloir m'ingérer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Donc, je vais peut-être un peu décevoir vos auditeurs dans le sens où j'aurai un ton qui est un peu plus réservé et plus mesuré que dans mes autres interviews avec vous, en tout cas les autres moments où nous avons échangé ensemble, mais quand même trois choses. Je pense, un, que l'exercice est de toute façon intéressant. Alors c'est évident qu'il y a des frustrations de part et d'autre, on le voit avec la société civile, on le voit avec les grands leaders de l'opposition qui actuellement n'ont toujours pas décidé de rejoindre la dynamique. N'empêche qu'il y a quand même une partie de l'opposition qui est présente. On voit que du côté de la majorité présidentielle, tout le monde se mobilise en tout cas quelqu'un pour au moins déjà faire un état des lieux de l'avancement de la politique qui a été menée par le gouvernement depuis les élections de 2011. Et moi, je peux vous dire que j'ai passé ce week-end entre Bukavu et Kinshasa, et j'ai vu vraiment les experts et les conseillers des différents groupes thématiques vraiment travailler pendant tout le week-end pour rassembler les données, pour refaire le point sur un certain nombre de dossiers qui sont soit en souffrance, soit en avancement depuis la mise en place du gouvernement de M. Matata. Et donc, je pense que l'exercice est déjà de toute façon intéressant. Deux, il faudra qu'on voit, et là-dessus, je pense que c'est plus ou moins bien parti, le gage des différents représentants. Et vous savez que c'est évidemment un exercice très compliqué quand on voit le nombre de délégués qu'il y a à ces concertations nationales et dont on sait en plus que le nombre augmente pratiquement chaque jour. Mais je pense qu'il ne faut pas du tout en faire le reproche aux initiateurs et au présidium des concertations nationales. On connaît quand même la dynamique congolaise qui fait que il y en a qui se réveillent un peu en cours de route et qui disent, bah oui, finalement, tiens, on n'y croyait pas au début, mais maintenant, pourquoi finalement ne pas y aller? Y a-t-il l'attrait des fameux pères d'IEM? Y a-t-il l'attrait? Moi, je pense qu'il y a l'attrait surtout aussi pour ces responsables et ces délégués, bah, de faire en sorte qu'on puisse avancer et qu'on puisse sortir de l'impasse dans laquelle le pays aujourd'hui est, une impasse quand même qu'il faut rappeler ne dépend pas à 100% de la République démocratique du Congo, puisque on sait d'où viennent l'origine, d'où vient l'origine de ces concertations nationales. Ce sont les fameux accords cadres d'Addis Abeba. Il y a eu un lobbying intense de la communauté internationale et notamment de Madame Robinson et du secrétaire général des Nations Unies pour dire, bah écoutez, on est d'accord qu'il faut que tous les pays prennent un peu de retenue par rapport aux exactions qui sont en train de commettre, pays voisins de la République démocratique du Congo, toutes les exactions qui sont en train de commettre sur le territoire congolais, et en contrepartie, ben, il faudrait que les autorités congolaises et le gouvernement légal de la République démocratique du Congo puissent faire aussi quelques efforts en matière de cohésion nationale et d'esprit nationaliste, si je peux utiliser ce mot. Maintenant, la médiation internationale, moi je n'étais jamais, je pense que vous pouvez vous rappeler.
Qu'on revienne, donc les membres des partis d'opposition, membres du groupe désarmement, réinsertion et démobilisation, ont décidé de sécher la poursuite des travaux en plénière, réclamant la présence des groupes armés à ces assises. Comment on peut comprendre cette attitude?
Je vous avoue que je ne la comprends pas et je ne la partage pas. Je pense qu'il avait été très clair depuis le début et lorsqu'il y a eu le groupe préparatoire à ces concertations nationales, tout le monde a toujours dit qu'il était hors de question que les groupes armés soient invités à la table des concertations nationales. Il y a une dynamique à Kampala qui continue. Ne mélangeons pas les choses. Ces groupes armés n'ont pas le droit de participer aux concertations nationales puisqu'ils sont de toute façon considérés comme des forces négatives par les Nations Unies et par la communauté internationale. Et donc, si on commence à ouvrir ces concertations nationales à des groupes négatifs, à ceux qui sont en train de mettre la population à feu et à sang à l'est de la République démocratique du Congo, ce ne sont plus des concertations nationales. Alors là, moi, j'en perds un peu mon latin. Pense que c'est peut-être un petit coup de gueule, si vous me permettez l'expression, de la part des représentants de l'opposition, mais j'espère qu'ils ne vont pas tomber dans le piège de devenir les avocats de ces groupes armés et de ces forces négatives qui sont actuellement en train de commettre toutes ces exactions à l'est de la RDC.
Oui, ça semble être un peu aussi de l'imbroglio, hein, parce que là, il y a eu également la déclaration des groupes armés. Hein, nous avons
soutenu
cette déclaration. D'ailleurs, au point 6 de cette déclaration des groupes armés du Nord Kivu relative aux concertations, il est clairement stipulé que les rebelles regrettent amèrement que ces assises, dans leur format actuel, n'aboutissent à rien et attendent impatiemment le dialogue national.
Bah écoutez, moi je pense que c'est vraiment de la fausse politique et en tout cas de la politique de bas étage que de penser cela. Il y a d'abord les concertations nationales ne sont pas terminées, donc je vois pas déjà comment ils pourraient regretter, et je vois que dans le point 4 ou le point 5 de cette déclaration, ils sont désolés de voir que l'autorité de l'État n'est pas présente dans les zones qu'ils contrôlent. Alors, je ne comprends plus rien. Est-ce que c'est eux qui veulent contrôler ces zones-là ou ou est-ce qu'ils veulent que l'État congolais contrôle ces zones-là? Enfin, donc, vous savez, ces déclarations finalement, est quand on même un peu du n'importe quoi, pour être
voilà,
clair.
Voilà, avant d'accorder la parole aux auditeurs, Dominique, finalement, on est dans une confusion, on est vraiment dans un flou, et dans une nébuleuse que personne ne peut comprendre. Parce que là, au fait, les concertations nationales, en quoi elles sont différentes du dialogue national?
Bah, écoutez, moi je pense que les concertations nationales concernent ce qui se passe à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo et à l'intérieur des zones qui sont contrôlées par le gouvernement congolais. Le dialogue national et le dialogue de Kampala, lui, concerne le fait qu'il y a des États étrangers, voisins de la République démocratique du Congo, qui soutiennent ces fameuses forces négatives à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour déstabiliser la région et pouvoir en avoir une partie du contrôle. Donc je pense qu'il y a vraiment deux dynamiques qu'il ne faut absolument pas mélanger. Moi, je vous l'ai dit, je pense la fois passée, je pense qu'il faut que ce dialogue à Kampala termine le plus vite possible, cesse, parce que on peut encore partir pendant 2 mois, pendant 6 mois, à essayer de discuter pour savoir est-ce qu'il va falloir déposer les armes, pas déposer les armes, dans quelles conditions, est-ce qu'il faut réintégrer. On l'a dit, je veux dire, la position, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'imbroglio. La position du gouvernement congolais a été claire depuis les accords cadres d'Addis Abeba, hors de question de réintégrer des éléments négatifs dans les forces armées de la République démocratique du Congo, hors de question de pouvoir leur donner des postes, que ce soit dans les gouvernements provinciaux, que ce soit dans les parlements provinciaux, que ce soit évidemment au niveau du gouvernement ou du parlement national. Il y a eu des élections en 2011, on connaît la manière dont elles se sont déroulées, mais je suis désolé, je le rappelle, elles ont été acceptées et par la communauté internationale et par une grande partie de la classe politique congolaise, puisqu'il y a une opposition qui fonctionne à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales, et que donc, pour le moment, ne mettons pas du flou là où finalement il n'y en a pas. Nous sommes toujours, je pense, dans une dynamique de sortie de crise. Donc il est évident que rien n'est clair et que rien n'est... Mais vous savez, en Belgique, on a eu 510 jours de crise politique sans gouvernement.
On va y revenir parce que déjà, les auditeurs s'impatientent. On va leur accorder la parole. 081 890 6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous ouvrons ces débats avec les auditeurs et surtout avec Théodore qui est un Boujimaï. Bonjour Théodore.
Bonjour Gérard.
Voilà,
merci pour la parole.
Merci beaucoup Théodore de nous rejoindre. Hein. Les états généraux des concertations nationales ont débuté jeudi dernier à Kinshasa, mais une partie de l'opposition congolaise boycotte cette rencontre politique et la société civile en province orientale ainsi que la coalition nationale de la Cour pénale internationale dénonce notamment certaines irrégularités. Alors comment vous commentez cette actualité, vous, personnellement?
Merci. Vous savez... que cette concertation a été voulue par l'initiateur en vue de décrisper la situation liée au pays, cette crise interminable et aussi l'appareil exécutif de l'État qui souffre toujours depuis que le gouvernement est là sur place. À côté de cette concertation, il y a un gouvernement qui essaie de travailler mais sans soutien extérieur dans les domaines financiers par exemple, parce que chaque pays, après les élections, il faut, malgré les impôts et les taxes que la population peut payer, mais à cela, il fallait aussi tendre les mains. Il fallait que l'Organisation internationale, la Banque mondiale, puisse aider les pays. Mais jusque-là, notre pays reste tel qu'il est, sans financement extérieur. C'est ce qui bloque les choses et la crise continue. Dans l'organisation, les invitations ont été envoyées et lancées partout par le Présidium. Il y a la majorité présidentielle qui a reçu des invitations, il y a l'opposition et la société civile, voire même les chefs coutumiers. Mais les gens pensent à autre chose. Cette concertation, c'est pour faire sortir ce pays plutôt dans cette crise. Mais les invités qui sont là, pour moi, je pense peut-être qu'ils ont d'autres visions. Ils sont allés peut-être pour gagner les perdants et consorts. Et ce n'est pas ça l'idée du chef de l'État. Lui, pour lui, il avait trouvé que la machine de l'État ne tourne pas. Alors il faut une concertation tout autour de tout le monde.
Théodore, s'il vous plaît, parce que là, ne versons pas dans le préjugé, le jugement de valeur, parce qu'on ne sait pas s'ils sont allés là-bas pour les postes, effectivement, mais ce sont des experts qui sont là et qui réfléchissent. Mais vous qui suivez l'actualité, en tout cas depuis le début, qu'avez-vous constaté?
Je constate que, par exemple, il y a un nombre de leaders politiques de l'opposition qui veulent créer une concertation parallèle. c'est déjà un blocage. Pas si ça commence comme ça, ça ne doit pas marcher. Mmh. Et beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent à Kinshasa, sans macarons. Ils sont là, ils attendent le macaron jusqu'à ce jour. Vous voyez, c'est aussi des choses qui arrivent. Et la société civile, qui devrait se montrer neutre à la politique, mais la société civile nous a déçus, parce que plusieurs listes ont été modifiées, et cela laisse beaucoup de questions, d'interrogations. Mm-hmm. Cette société civile ne devrait pas vraiment faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et ce n'est pas tout le monde qui devrait aller à la consultation non plus. Il fallait choisir les gens qui devraient bien représenter la société civile. Mais cela n'a pas eu lieu. À la majorité présidentielle pour eux, par exemple, c'est déjà la victoire. Ils sont en majorité, ils savent que les choses pourront bien marcher. Mais l'opposition a choisi de faire une concertation parallèle. C'est indiqué
pour moi Théodore,
de faire Théodore, rien de cette concertation.
Oui, Théodore, ben selon les informations de notre opposition, il y a quand même des débats des fonds hein, qui se déroulent au niveau des États généraux.
Oui, les débats des fonds se déroulent, c'est bien. Mais
ce n'est pas un cadeau. Les gens ne se font pas des cadeaux là-dedans.
La concertation devait être inclusive. C'est ça le problème.
Merci beaucoup, Théodore, d'avoir appelé de Mbujimaï. Jean-Pierre, vous êtes à Isiro. Bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ici dans la ville d'Isiro.
Voilà, Jean-Pierre, vous avez suivi Théodore qui a déploré des concertations parallèles qui se préparaient du côté d'une autre partie de l'opposition qui prend aussi contact avec la communauté internationale. Théodore regrette également que jusqu'à ces jours, nous sommes déjà à 10 jours après le lancement de ces travaux, il y a encore des gens qui sont membres ou les participants de ces assises qui n'ont pas encore des macaques. Et puis la société civile qui a présenté plusieurs listes, et vraiment c'est selon ses propos, c'est une honte. Alors comment vous réagissez et quels commentaires faites-vous?
Oui, d'abord, avant que je puisse donner mes points de vue qui seront articulés à des points, donc sur les plans nationaux et ici pour nous, dans les hauts, où il est présentement à Isiro, je vais essayer d'apporter mes contributions par rapport à ce que l'ami vient de dire, l'ami qui m'a précédé. Nous avons senti qu'il y a eu une certaine impréparation ou mal organisation de cette affaire, puisque jusqu'à la dernière minute, on nous avait dit qu'il y aura 500 personnes et on nous dit qu'il y aura 700, après on dit 1000 ou 1500 et les quotas pour chaque district ou bien chaque territoire ne s'est pas bien fait sentir et pourtant, donc au début nous entendions que ça puisse être une affaire pour résoudre les problèmes que nous avons eu après les élections de 2006, et donc entre la majorité et l'opposition, donc ce que ça nous donne
Jean-Pierre, Jean-Pierre, il faut rectifier parce qu'il ne faudrait pas que nous demeurons dans cette erreur-là, hein. L'ordonnance présidentielle n'avait pas dit ça concrètement, que les concertations devaient se tenir pour résoudre les problèmes des élections de 2006, non?
Oui, mais non, l'ordonnance du chef de l'État est venue seulement après, puisque avant l'ordonnance du chef de l'État, nous avions eu plusieurs débats autour de cette affaire. L'ordonnance du chef de l'État est venue seulement après, mais avant ça, nous avions eu beaucoup de débats autour de cette affaire des concertations, et pourquoi ça devait se tenir. C'est sur base de ça que nous avions eu plusieurs suspicions, et notamment ce que nous avions dit. Et quant à ce qui concerne mon intervention d'aujourd'hui, je voulais d'abord dire que nous entendions que cette concertation puisse aider la République démocratique du Congo à être en mesure de remettre en ordre son intégrité territoriale, notamment à travers une armée forte et dissuasive. Et il n'est pas dit que nous sommes pessimiste ou optimiste par rapport à ce qui se passe dans notre pays, puisque en tenant lié de tout ce que nous avons eu comme résolution, tout ce que nous avons eu comme négociation dans les passés, nous allons voir qu'il y a eu un sérieux problème dans la résolution, bien dans la mise en œuvre de tout ce qu'on prend comme décision après les résolutions, notamment Sun City, tout ce qu'on a fait comme résolution, là-bas si vous voyez ce que nous avions eu comme mise en pratique ou bien en exécution, et vous-même vous savez les résultats. Et à ce qui concerne notre district du Haut-Ouélé, vous allez voir que depuis que nous avons commencé depuis 2005, 2006, nous avons eu des sérieux problèmes, puisque notre milieu, non seulement que nous avons eu des attaques des LRA et des Mbororo, à chaque fois que le chef de l'État est en train de présenter l'état de la nation, il ne cite que les problèmes de l'Ituri et des problèmes de Kivu, sans pour autant qu'il puisse citer les problèmes que nous sommes en train de subir dans notre milieu, sans pour autant qu'il puisse dire, et pourtant nous avons des éléments étrangers congolais qui sont des Mororo et des Elera qui continuent à tuer la population congolaise et qui continuent à maltraiter la population agricole qu'ils ont trouvée sur terrain. Et pourtant, ils sont élevés. La population est en train d'en souffrir. Et puis, nous nous sentons en quelque sorte rejetés ou c'est comme si on ne mettait pas en compte nos desiderata. Et les problèmes des routes dans notre milieu, vous allez voir que le Haut-Touélé est en quelque sorte, je ne sais pas qu'est-ce que... C'est comme si on voulait isoler les sirops des autres coins du pays. On a les plans de réhabilitation des routes. Vous allez voir que chez nous, le gouvernement n'a pas réalisé un plan ni pour la réhabilitation des routes, ni pour l'électrification. Ni tout. Donc, plein de trucs pour essayer de nous isoler un peu des faits à faire. Et nous voulons dire en dernier lieu que les personnes qui sont en train de participer à ces pourparlers doivent savoir que la majorité de la population congolaise est agriculteur. Et la majorité de ceux qui, donc la majorité depuis qu'il a pris les pouvoirs, vous allez voir qu'il n'alloue pas beaucoup de montants ou beaucoup d'intérêt à cette activité où il y a plus de 80% de la population congolaise. Les politiciens congolais doivent non seulement venir pour leur parti politique, mais plutôt pour l'intérêt général de notre pays et pour la population congolaise.
Voilà, je crois que les recommandations qui sortiront de ces concertations, qui seront versées au niveau du Parlement, le Parlement d'ailleurs qui, au fait, va ouvrir la session budgétaire aujourd'hui, il était prévu d'ailleurs à 10h, et aussitôt ils vont ouvrir et aussitôt ils vont fermer pour laisser la place, la priorité donc aux concertations nationales, et qui verseront plus tard donc les recommandations. Et je crois parmi les recommandations qui seront formulées au niveau des concertations, Jean-Pierre, par rapport à votre souci, les participants vont vous leur demander donc d'avoir un œil sur un regard sur le projet de développement de d'Issiro et surtout avec tous ces problèmes auxquels font face les populations. Merci beaucoup Jean-Pierre. On va prendre Mathieu. Malheureusement Mathieu qui est à Kananga. Mathieu, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, merci de l'appeler.
Voilà Mathieu, vous avez la parole.
Bon. Je vois qu'on dit l'ordonnance évoquant la concertation avec autre chose qu'un agenda caché au nom du
gouvernement. Mathieu, s'il vous plaît, vous
temps, sortez. Nous cherchons la cohésion nationale pour mettre à la guerre de l'Est.
S'il vous plaît, Mathieu, là, vous sortez vraiment très mal. On vous saisit à peine. Si vous pouvez peut-être changer de position, le temps, on va revenir à vous. Franck, on va prendre Franck qui est à Vienne. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, aussi bonjour à tous les compatriotes congolais avec qui nous échangeons.
Voilà, comment commentez-vous l'actualité qui fait débat aujourd'hui dans notre émission?
Merci beaucoup. Nous suivons avec intérêt ce qui se passe là au niveau des états généraux de ces concertations. C'est déjà une bonne chose. Par ailleurs, ces assises seraient vraiment bénéfiques. Elles auraient des retombées positives au niveau du vécu quotidien si les uns et les autres se dépassionnent un peu de leur radicalisme politique, si les uns et les autres se dépassent un peu de leurs calculs et ambitions, souvent personnels et aussi des calculs et ambitions de leurs états-majors politiques respectifs. Notre pays, l'intégrité de ses frontières vers la partie Est, la stabilité de la vie quotidienne de nos compatriotes dans certaines provinces sont menacées depuis des décennies. Nous espérons que les questions cruciales d'intérêt suprême de la nation, nous espérons que les préoccupations fondamentales du maintien et de l'intangibilité de notre intégrité nationale, nous espérons que certaines questions d'intérêt national qui semblent ne pas répondre aux attentes du souverain primaire seront abordés en priorité. Contrairement, monsieur le journaliste, nous risquerons, nous, peuple congolais, nous risquerons de donner raison à ceux qui nous les prouvent que le vrai problème de la République démocratique du Congo, le premier ennemi de son instabilité et de son développement dans certains coins, le plus grand mal qui ronge le fonctionnement des institutions congolaises, c'est le Congolais lui-même, c'est son égoïsme et individualisme allant jusqu'à hypothéquer les intérêts suprêmes de sa nation. C'est aussi, bref, notre manque du vrai patriotisme. Nous espérons que ceux qui nous représentent à ce niveau vont tenir compte de toutes les recommandations qui seront formulées et ils devront l'appliquer pour le bien-être de tous. Merci, je vous remercie.
Merci beaucoup, Franck. 081-890-6315 ou encore déposez vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, avant de revenir encore en ligne avec Omar, mais nous prenons Dominique Vert qui est dans ce studio, qui est notre invité. Vous avez suivi Théodore, Jean-Pierre, Mathieu, ainsi que Franck. Alors, comment orientez-vous leurs préoccupations, Dominique?
Ben écoutez, moi je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait justes, hein. Et quand on voit aujourd'hui, par rapport à ce que disait le premier auditeur, le fait que la République démocratique du Congo ne soit pas soutenue par l'extérieur et par la communauté internationale, notamment au niveau des financements, ben je pense que c'est un peu vrai. Quand on voit aujourd'hui où on en est avec la Banque mondiale, où on en est avec l'Union européenne, le Fonds européen de développement est un peu bloqué, on sait très bien que c'est à cause dynamiques administratives et de contrôle au niveau de la Commission européenne et de l'Agence de développement européenne que tout cela prend un temps énorme, très très long, que les procédures sont complexes, sont compliquées. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement doit fonctionner avec un budget de 6 milliards de dollars, ce qui veut dire presque rien quand on voit l'étendue du pays et surtout quand on voit les besoins en République démocratique du Congo. Alors, par rapport à la société civile, oui, je pense que c'est un peu vrai. Il est peut-être un peu radical, mais c'est vrai que il faut bien savoir évidemment que ici en République démocratique du Congo, et je suis bien placé pour le savoir, pour y avoir travaillé pendant une quinzaine d'années, on ne peut pas parler d'une seule société civile ici en République démocratique du Congo. On a plusieurs sociétés civiles. Alors évidemment que ça crée un problème. Quand il faut les rassembler, ou en tout cas quand il faut en dégager un certain nombre de délégués pour une initiative comme les concertations nationales. Et donc, il y a une responsabilité du côté de la société civile dans sa coordination et dans sa capacité à pouvoir finalement se fédérer et dégager une délégation qui soit la plus représentative de ce qu'est aujourd'hui la société ou les sociétés civiles qui sont actives ici et dont on sait quand même, il faut le rappeler, qu'elles font un travail remarquable, notamment pour répondre aux besoins de la population, là où souvent l'État est défaillant ou en tout cas n'est pas vraiment présent. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que le nombre de délégués de la société civile venant de l'intérieur du pays est un peu trop faible par rapport aux délégués de la société civile qui sont ici à Kinshasa. C'est vrai que c'est un problème. Maintenant, je pense qu'il faut essayer de faire avec, comme on dit en Belgique, et de faire en sorte que ces délégués-là puissent véritablement travailler et puissent vraiment amener de l'eau au moulin de ces concertations qui doivent aboutir en effet à des résolutions ou à des recommandations. Alors, le bon exemple d'Isiro est très bon parce que justement au niveau, il parlait de ces groupes armés qui sont actifs chez lui et dont personne, et dont personne ne parle. Je pense que les concertations nationales, c'est justement cette occasion de pouvoir faire un état des lieux de l'ensemble. Et il est évident qu'il n'y a pas que les groupes armés qui sont actifs.
Ça m'étonnerait parce que en lisant les états généraux, par exemple, notamment celui de conflits communautaires, et je crois que quelque part, c'est bien mentionné, quand on a identifié, parce que nous avons suivi l'actualité, en identifiant les problèmes, on a dû évoquer le cas, par exemple, de Mbororo. Donc, c'est que au niveau des États généraux, on tient quand même compte de ça.
Ah oui, tout à fait, justement. Et c'est ça un des côtés positifs de ces concertations nationales, c'est qu'on va pouvoir. Et sur l'agriculture, c'est la même chose. Il est évident que la première richesse de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les mines, c'est pas l'or, c'est pas le diamant, c'est pas le coltan, c'est l'agriculture et le bois. Et donc, si ces concertations permettent de pouvoir remettre vraiment ce point-là, cette préoccupation-là sur une grande campagne agricole de relance de l'agriculture, et on voit que ça se fait déjà, ça s'est fait au Kasaï oriental la semaine passée. Il y a un plan provincial qui a été mis en place au niveau de l'agriculture avec des moyens vraiment importants qui vont être injectés par le gouvernement provincial en soutien à l'agriculture paysanne, celle qui est vraiment proche des gens, pas l'agriculture intensive qui va permettre aux multinationales de l'agroalimentaire de pouvoir encore s'enrichir plus. Non, il faut faut vraiment travailler sur l'agriculture paysanne, l'agriculture familiale, là où les gens sont et là où il y a moyen de pouvoir avoir des rendements bien plus grands que ce qui ne se fait aujourd'hui. Et donc, moi je pense que...
L'impréparation. Il y a quelqu'un qui a évoqué aussi le cas d'impréparation. Alors, surtout par rapport de l'effectif 500, ouais. On arrive aujourd'hui ouais, mais à plus de 800, plus de 900.
Je l'ai un tout petit peu évoqué dans l'introduction. Moi je ne suis pas complètement d'accord. Je crois qu'il y a une vraie préparation. Que le gouvernement et le présidium et le groupe d'experts qui a préparé ces concertations ont vraiment bien préparé. La seule chose, c'est qu'évidemment, votre autre auditeur le disait, il y a le mal congolais avec la dynamique culturelle congolaise qui fait que il est toujours difficile de pouvoir se tenir à un cadre qui a été établi. Et donc ici, je pense que c'est vraiment en fonction des délégations, en fonction des origines des délégués qu'il y a eu. Ben voilà, une augmentation, on est passé de 500 à 600, à 700, à 800. Je pense qu'on n'est pas à 1500, mais qu'on est vraiment à 1000 et que maintenant ça va s'arrêter. Bon, écoutez, moi je pense que ce n'est pas un gros souci. On a encore une semaine. Les groupes thématiques ont commencé à travailler aujourd'hui. C'est là que ça va être le plus important.
Oui, mais dans la logique, par rapport au temps, on est déjà pratiquement à plus d'une semaine. C'est-à-dire, oui. On est au 10e jour, si les calculs sont bons. Alors que les concertations sont prévues que pour 15 jours.
Oui, mais vous savez bien
qu'il y a... Parce que vous pensez qu'il y a 5 jours qui restent.
Non, mais vous savez bien qu'il y a une petite disposition qui permet au présidium de pouvoir la prolonger de 5 jours. Je pense que ce sera d'office le cas. Écoutez, ce serait un exercice incroyable si un pays comme la République démocratique du Congo, qui est 4 fois le territoire de l'Europe, de l'Union européenne, arrivait en 15 jours à régler des problèmes qui sont quand même majeurs et dont on sait qu'ils sont complexes et qu'il y a surtout des implications extérieures dans la résolution de ces problèmes, que ce n'est pas uniquement à l'intérieur des autorités ou des forces vives de la République démocratique du Congo qu'on va trouver la solution à l'instabilité à l'Est, mais aussi dans d'autres régions. Et je reviens sur les groupes armés, il va y avoir la présentation d'une cartographie dans le groupe thématique de l'ensemble des groupes armés qui sont actifs sur le territoire congolais, et on verra qu'il n'y a pas simplement que des groupes au Kivu, que ce soit au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri. Évidemment, il y en a aussi ailleurs.
Voilà. Dominique, pour ne pas... faire attendre les auditeurs qui vont intervenir tout à l'heure, mais une question juste de curiosité, hein, parce que selon l'actu que nous avons eu à magasiner hier, hein, les délégués ou les participants aux concertations nationales, par rapport à leurs émoluments, c'est vrai, on ne peut pas aborder cette question ouvertement, mais bon, ce qui a fait qu'aujourd'hui, hier, c'était pas facile pour qu'ils puissent toucher les émoluments, parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le montant. Est-ce que ça risque pas de démotiver certaines personnes?
Bon, j'espère que non.
C'est un travail, c'est pas mal scientifique, c'est un travail d'esprit. Alors, les gens, ils sont parce qu'ils savent que, voilà, ils pouvaient aussi toucher quelque chose. En fait, c'est juste une curiosité. Est-ce que ça va pas démotiver?
J'espère que non. De toute façon, je pense que la meilleure manière de ne pas les démotiver, c'est que tous ces délégués se rappellent, puisque nous sommes en pleine rentrée scolaire, combien gagne un enseignant par mois.
Voilà, Omar est à Kinshasa, Franklin à Bukavu, Maître Francis est également dans la ville de province de Kinshasa. Omar, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à l'invité.
Voilà, comment vous commentez cette actualité?
Merci beaucoup JR. D'entrée de jeu, je voudrais en tant que Congolais féliciter les chefs de l'État qui est ici, parce que nous interrogeons l'histoire politique au monde, il n'est pas nombreux ceux qui permettent qu'en pleine gouvernance qu'il y ait débat. Mais aujourd'hui, nous constatons certains désordres, certaines interférences qui, à mon avis, sont dues à plusieurs causes. Premièrement, je crois qu'il y a aussi un problème de préparation. Je me souviens du propos de Nicolas Sarkozy à Davos, en Suisse, lors d'un sommet des Unions européennes. Il a dit « Le changement d'un pays n'est pas l'apanage seul des experts, comme vous l'avez dit au début. Il faut d'abord interroger toutes les couches sociales. » Je parle par rapport aux thématiques. Les thématiques ont été fixées pas en accord avec la population. On aurait dû faire comme au Venezuela, prendre des feuilles et interroger quartier par quartier à la population. Quels sont les points que vous voulez qu'on traite pendant les concertations? Ça, c'est déjà un point très sérieux. Par rapport au surnombre des participants, il y a aussi un problème de préparation. Moi, j'ai des amis qui militent dans des associations de jeunes qui ont été arrêtés pour avoir contesté les listes des gens qui ont été introduites. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on parle d'impréparation? De deux, il y a l'absence de l'opposition.
ça s'est relevé, n'est-ce pas, de l'inconscience politique et de l'immaturité. Je suis un amoureux de la politique française. Vous verrez quelqu'un comme Brice Hortefeux, ça fait des années qu'il est à la droite. Vous verrez quelqu'un comme Martine Aubry, ça fait des années qu'il est à la gauche. On a des hommes politiques qui se réveillent le matin et disent, j'ai dit oui. Au concertation, le soir, il dit non. Mais où sommes-nous? On a affaire à quel homme politique? L'inconscience politique est aussi à la base de ces absences-là. Et pour finir,
oui, Omar, parce que vous abordez cette question, ben alors il y a certains observateurs qui se posent la même question. Jusqu'où, disons, va aller, on dira, avec cette politique des chaises vides?
C'est ça, JR. Martin Luther King disait, devant l'oppression de méchants, ce qui importe, ce n'est pas l'indifférence de juste. Ça veut dire l'inaction n'a jamais été une solution. Devant une indifférence, devant une méchanceté, on agit. Et les cadres appropriés maintenant, c'est les concertations. Un intellectuel, disait Joseph Kizerbo, n'est pas celui qui a des diplômes, des thèses, mais c'est celui qui se sert de son cerveau pour apporter des solutions à sa communauté. Et on vous appelle sur une table, vous opposants, vous majorité. Il faut venir. Comme solution, j'y ai les temps faisant défaut. Il faut que les hommes politiques congolais aient la conscience. Le problème, c'est quoi? Quand on est opposant, on ne peut pas tout refuser parce que ça vient de la majorité. De même, la majorité. C'est pas parce qu'on est de la majorité, on doit tout accepter parce que ça vient du pouvoir. On doit privilégier l'intérêt général, qui est la loi suprême d'un État. Et les lieux indiqués pour le faire, c'est se mettre autour d'une table géante. Nous sommes Africains. Et le problème le plus familier, c'est traître autour d'une table. Et pour finir, JR, je voudrais aussi interpeller tous les intellectuels congolais. Ils ne sont pas là pour les intérêts personnels. Comme je l'ai dit, le vrai intellectuel, c'est celui qui utilise son cerveau pour apporter des solutions. Martin Luther King l'a fait, Nelson Mandela, Lumumba l'a fait. Il est aussi temps que les autres puissent le faire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar. Franklin, vous êtes à Bukavu. Bonne arrivée sur les ondes de Radio Okapi.
Bonjour, JR. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Votre point de vue?
Oui, moi je pense que, concernant les thématiques, moi je pense que l'équipe qui était chargée de prendre toutes les thématiques, je pense qu'elle a bien choisi les thématiques parce que, en fait, quand vous lisez toutes les thématiques, vous vous rendez compte que les problèmes, tous les problèmes de la population congolaise ont été bien sélectionnés. Ça, c'est le fond. Mais par rapport à ce qui pose problème, c'est la forme. C'est la forme qui pose problème dans le sens où les principaux acteurs de cette crise, les principaux acteurs qui ont fait qu'il y ait une rupture au niveau de la cohésion nationale ne sont pas là. Là, j'ai cité en premier chef Étienne Tshisekedi, Evita Kamere et Joseph Kabila. Parce que ce sont les trois-là qui posent aujourd'hui problème. Moi, je pense que c'est par là qu'on devrait d'abord commencer. Commencer par convaincre le président de l'UDP, commencer par convaincre Vital Kamere et commencer par convaincre le président de la République pour que ces trois-là arrivent à se mettre d'accord. Parce que moi, je ne vois pas de concertation nationale, des résultats, là où ces trois-là n'acceptent pas les résultats. Moi, je vois que l'opposition demande trop. L'opposition demande trop et ne peut pas accepter. La majorité aussi se trouve dans une position où je suis le chef et je reste. Là, c'est le grand problème. Je pense que les trois parties-là devraient arriver à faire des concessions, chacun à son niveau, et dire que non, à ce niveau-ci, nous pouvons accepter que ça, nous faisons des concessions, et ça, nous pouvons arriver à nous mettre d'accord. Comme l'a dit Omar, il faut arriver à privilégier l'intérêt général. Mmh. Parce qu'en fait, là, le problème qui se pose, si on dit à la société civile, c'est là où je rentre, on dit que non, on n'a pas été bien représenté. Mais non, il faut avoir la culture de la représentativité dans ces pays. Tout le monde ne devrait pas participer à cette crise-là, sinon ça serait déjà un référendum. Il fallait avoir la culture de représentativité et savoir que celui qui représente, il a auprès de au nom de la société civile. Autre problème qui se pose, que moi je trouve, c'est en fait quand on va parler des conflits communautaires. On a exclu les représentants des groupes armés, ça c'est pas bien. Parce qu'on va parler des groupes armés, il fallait avoir les représentants de ces groupes armés à ces assises pour essayer de les interroger sur les motifs qui font que chaque jour ils créent des groupes armés qui n'apportent rien, qui ne protègent pas la population. Et là, pour terminer, je voudrais poser une question à notre invité. Il y a maintenant les concertations nationales qui sont en train de se faire et la session qui vient de s'ouvrir. Est-ce que laquelle de cette activité-là, est-ce que c'est la session budgétaire qui sera offerte et sacrifiée au détriment des concertations nationales? Est-ce que notre invité peut nous dire qu'il n'y aura pas une activité qui va influer sur l'autre causer des préjudices sur le déroulement de notre activité.
Merci beaucoup, Franklin. Nous prenons maître Francis qui est à Kinshasa et on va rester toujours dans la même ville-province de Kinshasa pour retrouver également Maurice. Maître Francis, bonjour.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, maître Francis.
Oui, de prime abord, le chef de l'État, je le remercie, étant donné qu'il a réfléchi comme patriote, en ce sens que dans son discours sur l'état de la nation et dans son message de vœux adressé à la nation, il a vu qu'il y avait un problème, raison pour laquelle il a convoqué ces concertations. Alors, le pays ne veut pas seulement signifier la majorité. Non, il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. Et il faut aussi rappeler que ce dialogue se fait dans un cadre extra-institutionnel. Donc, il faut qu'un principe soit vraiment prédominant, c'est le principe de l'inclusivité. Vous vous souvenez, en 1991, le président Mobutu avait envoyé plus de 12 délégations à M. Etienne Tshisekedi et à Moïse Laurent-Désiré Kabila pour qu'ils viennent participer à la conférence nationale souveraine. Donc, et en ce qui concerne aussi le problème des thématiques, vous vous souvenez, en 1990, l'actuel premier vice-président du Sénat, l'honorable Mokolo Akombo, avait circulé dans toute la République. Il a reçu des lettres de la population et les différents problèmes ont été introduits dans la conférence nationale souveraine en termes des thématiques. C'est ça la cause sociologique, aller vers la population. Mais ce qui est désolant, c'est que les thématiques ont été définies sans concertation avec la population. Et deuxièmement aussi en termes de problèmes.
Oui, mais maître Francis, s'il vous plaît, parce que vous avez évoqué la CNS, la Conférence Nationale Souveraine, vous avez évoqué tant d'autres assises qui ont été tenues avant qu'on arrive aux concertations nationales, ce qui veut dire que l'état des lieux, ou les états des lieux sont connus, ce n'est plus un secret, donc on n'a plus besoin de revenir encore sur la population, question de gagner du temps.
Ah bon, on doit toujours revenir à la population parce que si les députés et les autres qui sont là, c'est pas pour parler de leurs propres problèmes, c'est pour parler au nom et pour le compte de la population. D'où moi je pense qu'on doit recourir à la population et deuxièmement aussi au niveau de l'opposition. Au niveau de la majorité d'abord, il n'y a pas un problème parce qu'il y a l'autorité morale, mais l'opposition est plurielle. Il n'y a pas un porte-parole qui aurait pour mission de sensibiliser, diriger et harmoniser les vues de l'opposition. Et si ces manœuvres, si je qualifie de l'état de l'opposition comme manœuvres dilatoires, sont dans le sens peut-être d'influer pour mettre des bâtons sur les roues, je crois que nous ne sommes pas dans une démocratie participative, nous sommes dans une démocratie représentative. Qui sont là représentent l'opposition et toutes ces recommandations leur seront opposables car la politique de la chaîne vise ne paye pas. Voilà un peu ma petite contribution aujourd'hui et je vous remercie.
Merci beaucoup maître Francis. Je crois que vous avez apporté quand même une grande contribution à cette émission. Maurice, vous êtes également à Kinshasa. Bonjour maître Maurice.
Ouais, bonjour Gilles.
Vous avez la parole.
Oui, je commence d'abord par réagir à chaud à ce que vient de dire mon prédécesseur de tout à l'heure.
Maître Francis.
La politique de la chaise vide paye, parce que aujourd'hui on ne peut pas nous démontrer que la politique des chaises pleines est payée. Hein? Sinon, ces gens qui sont là, qui remplissent le palais du peuple depuis près de 2 ans, ils devront apporter des solutions. On n'aurait même pas besoin de ces concertations. Donc ça, c'est d'abord pour répondre, parce que les gens veulent parfois véhiculer certains discours qui ne tiennent pas debout. La politique de la chaise pleine ne paye pas également, si la politique de la chaise vide ne paye rien. Alors, pour rentrer dans le sujet, j'ai suivi votre invité sur la question de pour parler là de Kampala.
Kampala, oui.
Je voudrais dire que je n'adhère pas vraiment à son point de vue. Lui qui estime qu'on ne peut pas associer le rebelle sur la table des négociations, pendant qu'il y a une thématique qui va traiter de cette question. Hein, mais c'est vraiment, je ne sais pas de quoi l'invité veut
Je crois que Maurice, on va faire quand même la part des choses, hein, parce que c'est vrai que la position du gouvernement est connue, hein, par rapport quant à ce, on ne peut pas y revenir encore pour dire, ben voilà, il faut qu'on puisse prendre les forces négatives, qu'on les insère au niveau de concertation nationale, d'autant plus que ils sont appelés à participer au dialogue qui se tient pour trouver la solution au problème. Disons à la crise régionale et sous-régionale, et il ne peut pas être au four et au moulin, donc, et à Kampala et aux concertations. Voilà, au moins c'est dans cet esprit-là que notre invité, bon, je crois qu'il va revenir pour éclairer encore votre lanterne par rapport à ça, mais néanmoins nous disons, nous sommes à mi-parcours, est-ce qu'on peut quand même faire une petite évaluation?
Donc, je voudrais d'abord parachever par rapport à cette question. Moi, je pense que ces accords de 23 mars ont été signés en aparté. Hein? La nation même n'était pas impliquée. C'était un accord qui s'est passé entre des amis de RCD, des PPRD, je ne sais comment. Mais aujourd'hui, il y a des conséquences sur la nation. Hein? Aujourd'hui, nos frères, nos sœurs de Nord Kivu ne peuvent plus dormir tranquillement à cause d'une histoire privée. Hein? Et aujourd'hui, quand on parle qu'on ne peut pas associer ces gens-là, mais pourquoi depuis 9 mois jusqu'à aujourd'hui, ça fait 9 mois, l'argent de l'État utilisé pour soutenir le PRDM et tout ça, des rebelles comme de membres du gouvernement qui participent à ces dialogues-là. Moi, je pense que pour mettre fin, on doit nous dire clairement parce qu'il y a des choses et le gouvernement et le M23 n'arrivent pas à dire à la nation des choses, pourquoi ça bloque.
Merci
il y a des choses parce qu'il y a des choses incroyables qu'on apprend qu'on ne peut pas rapporter ici à l'antenne. Nous devons faire par tous les moyens que ces dialogues soient versés ici. Si on va parler, qu'on puisse nous parler clairement, que la population et le peuple en général
puissent comprendre ce qui se passe
exactement dans cette histoire-là des accords de 23 mars.
Voilà, Maurice,
pour revenir aux concertations.
Oui, allez-y.
Ces concertations a été voulu à la sortie des élections chaotiques qui a été organisée le 11 novembre 2011.
Voilà, Maurice, je crois que on va accorder quand même le temps aussi à d'autres personnes parce qu'on n'a plus assez de temps. Vous avez brossé quand même un grand tableau. Merci d'avoir contribué à cette émission. Kabongo, vous êtes également à Kinshasa. On va terminer avec vous. Bonjour, Confiance Kabongo.
Oui, bonjour Mbote Djambo à tous les okapistes de la Radio de la Paix. Comme je l'ai toujours dit, tant que l'opposabilité de toutes ces résolutions à ces assises ne seront pas effectives, rien de bon ne pourra sortir de cette réunion. Tant qu'il n'y aura pas de dialogue franc entre la vraie opposition dirigée par Tshisekedi et la vraie classe dirigeante dirigée par Kabila, rien de bon ne pourra sortir entre cette rencontre qui, encore une fois, est un échec. Parce que nous avons toujours dit, la réussite d'un échec, c'est la réussite de son impréparation. Nous savons voir que le temps qui s'est écoulé entre la décision de faire le dialogue, donc je parlerai du mois de décembre 2012.
Oui.
Okay. Nous sommes aujourd'hui 9 mois après, et vous vous rendez compte que rien n'a été fait. Même le respect de la parole elle-même n'a pas été effectif. Donc, si je comprends bien, c'est encore une fois quelque chose qui nous fait perdre et le temps, et l'argent, et l'énergie, et fait prendre à l'État des risques non mesurés. J'ai dit lors d'une première émission que le souci qui avait animé le chef de l'État en décembre pour le dialogue n'était pas le même qui fait que ces assises se tiennent aujourd'hui, parce que les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Si le souci des décideurs était le bien-être du Congolais et du Congo, une telle réunion ne durerait qu'un seul jour, parce que tout a été déjà dit dans ce pays. 10 jours après, pour une réunion qui devait prendre 15 jours, vous savez voir que rien de bon ne sortira à ça. Et je vous dis, c'est une montagne qui accouchera d'une souris. Si ce n'est pas pour enrichir les gens qui y sont, parce qu'ils vont toucher 420 dollars par jour.
Non, selon nos informations, je crois que on ne doit pas véhiculer les informations fausses quand même, Kabongo. Les gens ne vont pas toucher 420 dollars américains, parce que hier, il y a même un groupe qui a boycotté de prendre de l'argent parce que, le taux n'est même pas celui-là.
Pourquoi c'est tout l'intérêt suprême de la nation? Les gens ne le feront pas gratuitement. Parce qu'il y a déjà un parlement
disons des choses clairement, que ce soit
si les gens aiment vraiment ce pays.
Oui, Kabongo, que ce soit du côté de la majorité ou de l'opposition, il y a des gens qui n'ont pas accepté de percevoir les taux qu'on proposait.
Donc, par exemple, il y a une classe de handicapés qui est prêt à aller dans ces concertations-là sans rien toucher. Et ces gens qui sont au pouvoir, qui dirigent, n'ont pas le monopole de la connaissance. C'est ça le mal dans ce pays. Les gens pensent qu'être au pouvoir, c'est avoir le monopole de la connaissance de ce pays. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui voient mieux. ce qui se passe dans ce pays.
Voilà. Merci beaucoup Kabongo d'avoir appelé et surtout merci d'avoir apporté cette contribution dans cette émission. Nous revenons à vous, Dominique Vert, mais tout en rappelant à nos auditeurs, si on peut encore voir deux derniers qui vont intervenir pour conclure cette émission, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va ramasser, Dominique, rapidement, les interventions de tout à l'heure. Il y a plein d'appréhensions. Il y a Franklin de Bukavu, Omar de Kinshasa, Maître Francis de Kinshasa, Maurice, et également, on a terminé avec Confiance Kabongo. Alors, comment vous auriez...
Écoutez, moi, je suis entièrement d'accord, en tout cas, avec Omar, et je trouve que les citations qu'il a reprises, cela fait du bien, et je pense que les délégués devraient, en effet, se les rappeler dans les travaux qui sont en train de mener. Par rapport à Franklin, alors évidemment que ça aurait été beaucoup mieux si on avait les trois grands leaders de politique de ce pays, à savoir le chef de l'État, Vital Kamerhe et Étienne Tshisekedi. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Le chef de l'État les a invités. Ils sont même nommés dans les concertations,
dans les commissions
comme experts, vu leur passé politique et les fonctions qu'ils ont exercées dans le pays. Maintenant, voilà, si eux ne veulent pas, moi je pense qu'il n'y a qu'une seule manière de pouvoir évaluer s'il fallait qu'ils soient là ou pas. Et j'espère, mais je sais que ce sera le cas, ces concertations vont aussi permettre de pouvoir remettre en perspective les élections et les processus électoraux qui doivent encore avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu en 2011. Vous savez qu'il y a eu une concession très forte du chef de l'État en changeant la Commission électorale nationale indépendante. Ça a été fait avant les concertations nationales pour montrer qu'il y avait eu un problème et que le problème devait être pris à bras le corps. C'est ce qu'a fait le chef de l'État, c'est ce qu'a fait le Parlement, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Moi, je pense que ce sera au prochain scrutin, en espérant, mais c'est un espoir personnel, que nous allons aller vers des élections locales assez rapidement, et que ce soit ce scrutin-là qui soit prioritaire. Et je pense que c'est à ce moment-là que la population pourra véritablement sanctionner, ou en tout cas donner son avis sur est-ce qu'il fallait que M. Vital Kamerhe ou M. Tshisekedi fassent la politique de la chaise vide, ou plutôt la politique de la chaise pleine. Mais il y a un moment où il va falloir qu'en effet les électeurs et la population puissent donner son avis à ce niveau-là. Mais je pense que son avis, c'est uniquement dans les processus électoraux qui vont devoir se mettre encore en place d'ici 2016 que la population aura véritablement l'occasion de donner son avis sur cette question. Par rapport à la session parlementaire, je rassure votre auditeur, évidemment qu'il n'y a pas simplement l'ouverture aujourd'hui de la commission budgétaire qui permet de pouvoir relancer les activités de l'Assemblée nationale. Cette commission budgétaire va travailler en parallèle aux concertations nationales. Et donc, on n'a pas juste ouvert ce matin, ou on ne va pas juste ouvrir cet après-midi, puisqu'on est en temps réel, tout et on ne sait pas bien si ça a été finalement inauguré à 10h ce matin, mais en tout cas, ce sera aujourd'hui. Les membres de la commission budgétaire vont travailler en parallèle des concertations nationales. Et je pense que par rapport à l'inquiétude de certains de penser ou de croire que ces concertations vont durer très longtemps et vont dépasser le délai imparti, moi, je pense qu'il y aura la pression du Parlement et de l'Assemblée nationale et des parlementaires qui vont devoir commencer à travailler dans leur bureau, puisque dans leur bâtiment, voilà. Puisque c'est là où se passent les concertations nationales, et que donc c'est une des raisons pour lesquelles, de toute façon, ça ne va pas s'éterniser.
Alors, on va conclure tout en prenant également les deux préoccupations, les deux dernières préoccupations qu'on va verser rapidement dans ce que nous avons déjà retenu avant. Jean, vous êtes à Kinshasa et Sylvain dans la même ville. On va vous prendre, en tout cas, excusez-nous, on n'a plus assez de temps. On va vous accorder juste à chacun 30 secondes. Jean, vous êtes avec nous, bonjour.
Okay, bonjour, monsieur l'invité, salut aussi les auditeurs.
Voilà, vous avez 30-40 secondes maximum.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. J'ai dit que les concertations ont été organisées dans la précipitation et que je ne vois pas un bon issue de ces concertations parce que les causes premières de ces concertations ou les agents principaux de la concertation.
Voilà, vos prédécesseurs l'ont déjà dit, Jean. On va évoluer rapidement, un élément nouveau que vous l'ajoutez. Parce qu'on n'a plus assez de temps, on n'aura que 5 secondes si vous avez un élément nouveau.
Ok, ok, c'est pourquoi moi j'ai dit, après les concertations, les résultats, on va les envoyer au Parlement. Le Parlement qui est bondé de majorité. Et qu'est-ce qui va sortir de bon? Rien.
Voilà, merci beaucoup, Jean. Sylvain, vous avez également 30 secondes avant qu'on revienne à notre invité pour vos conclusions. Sylvain, rapidement, bonjour.
Bonjour, merci. Hein. Bon, je crois que par rapport au temps même qui m'est donné, je crois que il est très important de parler concertation.
Oui,
mais dans quel contour, dans quel contexte? Donc c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est vrai que le chef de l'État, en annonçant les concertations, a fait une bonne chose, mais c'est seulement le débit annonce la fin. On a vu un débit vraiment caractérisé par tout désordre, donc on ne s'attend presque à rien parce que les véritables agents concernés dans la consultation n'ont pas pris part. Donc c'est un échec déjà qui se laisse voir, mais sinon c'est ça la possibilité finale.
Merci beaucoup Sylvain. Dominique Vint, à croire cette actualité, certains observateurs évoquent notamment un échec prévisible. Alors ne sont-ils pas simplement des prophètes des malheurs?
Oui, moi je pense qu'il faut quand même laisser au moins le processus arriver jusqu'au bout. On en reparlera sans doute dans une quinzaine de jours. Maintenant, moi je pense que il faut laisser une chance à cette dynamique, même si on sait qu'il y a de grands absents, même si on sait qu'il y en a qui sont frustrés, mais je pense qu'il faut laisser la Allô chance à cette dynamique et faire en sorte justement qu'on puisse se retrouver sur ces grandes thématiques et je pense que les thématiques qui ont été mises en avant par le Présidium et par le groupe d'experts chargé de la préparation de ces concertations balayent l'ensemble des défis qui sont devant, non pas seulement le gouvernement, mais devant l'ensemble de la nation congolaise, et chaque Congolais a une responsabilité devant l'histoire de faire en sorte qu'il participe au développement de son pays.
Voilà, merci Dominique Verte d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes analyste politique. Nous allons revenir avec vous, donc si pas peut-être dans une quinzaine, dans une quinzaine de jours, hein, pour toujours évaluer ces concertations nationales. Nous disons également merci à Guy Manzangou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Piro et Lameji l'a réalisée et J.R. Lungembo vous l'a présentée sous la supervision de Nicole Ngaka.
Allô? Allô? Mais, ils ne répondent pas?
Voilà, vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Demain, nous allons commenter également l'actualité sur la rentrée scolaire. Un mois après, comment évolue la situation chez vous avec les autorités de l'enseignement primaire et secondaire. Donc prenez déjà rendez-vous avec nous en déposant vos commentaires sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous appeler directement au 081-890-6315. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. À très bientôt.